Lorsque nous approfondissons l'exercice concret, l'assise, nous nous rendons compte à quel point tout est complémentaire. Si le corps et l'esprit s'habituent à être en pleine conscience, il y a forcément une ouverture à l'impermanence. Je vois concrètement dans mon expérience combien les choses changent. Je vois toute cette richesse de contact, d'émotion, de perception, de construction qui émerge et passe. Et aussi en plus large, je vois que vraiment, il y a les jours de joie et les jours de peine, les moments de joie, les moments de peine. Et je vois que ça n'est pas quelque chose qui me concerne, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui concerne la nature, les bêtes. C'est le propre du samsara. Lorsque nous vérifions cette impermanence, que nous le vivons, forcément qu'il y a une meilleure compréhension de ce qu'est dukkha. Nous nous habituons à accepter que nous ne pouvons pas fixer les moments de bonheur. Cette compréhension est précieuse parce qu'elle nous permet de lâcher la réactivité ou la volonté de manipulation, de contrôle, la soif, ce qu'on appelle la soif, tanha, la deuxième vérité, dukkha, c'est la première. Et naturellement, entre la compréhension que il y a l'impermanence, que de ce fait la vie est imparfaite, qu'elle est souffrance parfois, naturellement il y a ce lâcher prise de la soif d'avoir toujours ce que je veux, ou même d'avoir simplement maintenant ce que je veux, en opposition à ce qui est. Et ça fonctionne ensemble. J'applique la pleine conscience, je vois mieux l'impermanence, je comprends dukkha, j'abandonne tanha, j'abandonne cette faim ou cette soif ou ce désir. Et naturellement, ce qui accompagne cette sagesse qui s'éveille, c'est le non-moi, anatta. Je prends les choses moins personnellement. Je sens quand il y a identification, quand ce sens du moi émerge. Et au lieu d'aller immédiatement dans les constructions que cette emprise engendre, je reste avec l'absence ou la présence de l'identification. Donc la pleine conscience s'applique directement à l'attachement ou le non-attachement au moi, ou plutôt à cette énergie d'identification ou à cette absence d'énergie d'identification dans l'instant. Donc tout ça fonctionne ensemble, et quand j'en développe un, en même temps je développe les autres. Et la conséquence, c'est que nos vies sont plus silencieuses, on pourrait dire. Elles sont plus... Elles peuvent être très occupées. Nous pouvons faire les choses de manière rapide et efficace. Le silence n'est pas une absence de bruit. C'est une... ou de pensée, ou d'action, ou de parole. C'est une tranquillité intérieure qui fait que je peux fonctionner dans le monde sans être sous l'emprise du monde, sans y croire. C'est une grande paix de pouvoir envisager le futur en sachant qu'il y aura toutes ces émergences de ressentis, de vécus différents. Et en sachant qu'ils sont en même temps précieux et pas importants. Précieux parce que nous pouvons, parce que la vie est belle, nous pouvons offrir quelque chose de nous-mêmes autour de nous. Nous pouvons nous laisser ravir, être ravi, non pas ravir dans le sens de prendre, mais être ravi par tout ce qui est bon, la beauté de la nature, le délice d'un petit déjeuner, la tendresse d'un moment de partage avec un autre. La tranquillité d'un moment d'assise où j'abandonne ce qui est du monde pour un petit moment, en tout cas dans les actes, et où je m'ouvre à l'instant tel qu'il est. Il y a tellement de belles choses à recevoir avec gratitude. Et peu à peu, cette qualité de réceptivité sent qu'il y a des préférences et nous pouvons aussi sentir comment ces préférences s'atténuent. Lorsque une expérience est toute nouvelle et qu'elle est bonne, que ce soit une réalisation spirituelle ou un vécu du monde, naturellement, par cette puissance du contact avec le corps et l'esprit, quelque chose en nous, essayez de voir pour vous-même, mais en tout cas pour moi c'est clair, que quelque chose est profondément touché, intéressé, attiré, désireux de garder l'énergie du moment. Et on peut voir ce mécanisme, ces nouveaux, wow, je veux. Et les choses changent, nous faisons autre chose, nous allons vers autre chose, et puis l'énergie revient. Et elle revient encore, et elle revient encore. Le contact revient avec cette expérience-là. Et peu à peu, on s'habitue pendant un certain temps. C'est, ça nous éveille. Il y a ce wow. Et puis après, ce wow lâche et ce qui était extraordinaire devient ordinaire. Et la quête de quelque chose de bon, quand nous sommes en quête, c'est que nous souhaitons quelque chose de bon, la quête diminue. Nous constatons que l'esprit s'adapte ou s'habitue. Et de ce fait, les projections, les rêves d'un avenir meilleur, à tous les niveaux, au niveau matériel, un meilleur job, une plus belle voiture, un meilleur appart, un plus beau jardin. Un meilleur manteau. Enfin, maintenant, ce serait plutôt une meilleure robe d'été. Mais aussi au niveau psychologique. Si je pouvais lâcher prise de ces tendances négatives ou ces tendances qui me mettent à l'étroit. Si je pouvais avoir plus de charisme, de générosité, de sagesse, plus. Et au niveau relationnel, si je pouvais avoir plus d'amis, plus une famille, plus comme ci ou comme ça. À tous les niveaux, au niveau spirituel, si je pouvais être mieux concentrée, ne plus avoir ces moments de doute où je ne sais pas dans quelle direction marcher sur le chemin. Si je pouvais avoir plus de confiance, plus de détermination, si j'étais plus compassionnée, plus patiente, beaucoup de choses qu'on aimerait plus ou moins. Ces tendances à la préférence lâchent peu à peu parce que nous voyons comment les intensités positives deviennent normales. Et nous en cherchons une autre intensité positive. Cette pleine conscience ou cette vue claire de ce processus nous offre plus de sagesse. Et c'est pas quelque chose que je veux, c'est quelque chose qui vient du fait même que je connais mieux tous ces aspects de la nature humaine. Je développe la pleine conscience, je connais mieux l'impermanence. Dukkha devient une référence. Tanha, la soif est reconnue, elle n'est pas immédiatement identifiée. Je reconnais, ah tiens, ouais, ok, attachement, là, désir, ou aversion, non-désir, soif de non-existence, ça je veux pas, surtout pas. Anatta, hey. J'arrête de me mettre au centre dans cet égocentrisme douloureux. La conscience reste ouverte. Eh oui, il y a mes paysages intérieurs, il y a les paysages extérieurs, mais ça n'est pas mon problème. C'est le réel du monde, de chacun d'entre nous. Et je me reconnais dans mes frères et sœurs, humain et dans tous les êtres vivants. Je sens que je ne suis qu'un élément de toute cette interconnexion. J'arrête de me situer toujours au centre. Je suis au centre puisque j'habite ce corps et cet esprit. C'est un réel. C'est à partir de Anne-Michel que je perçois, que je construis, que tout apparaît à mes sens et à mon esprit. Mais je le sais. Je sais que c'est comme ça, que c'est comme ça chez chacun d'entre nous. Et au lieu d'en faire quelque chose de solide, de vrai, nécessaire à contrôler, protéger. Non, c'est juste ça, c'est juste ça. La vie qui s'exprime juste maintenant, dans cette forme-là. Mais il pourrait y avoir une autre forme. C'est juste une forme. Et ces petits moments où je peux voir, me mettre à ma place dans cet univers, ont une grande puissance de libération énergétique. Parce que nous sommes inquiets uniquement quand le moi n'est pas situé dans son contexte. quand tout à coup le moi devient une entité isolée, fortement séparée du reste. Et alors l'exigence, le moi doit être comme ça, aurait dû, devrait, pourrait. Pourquoi c'est comme ça? Comment je pourrais faire pour être autrement, avoir autre chose? Tout ce stress de l'aveuglement émerge. Lorsque nous nous lions à la conscience ici et maintenant, il y a ce corps-esprit physique qui est touché par la vie, par les contacts de la vie, qui réagit à l'intérieur et à tout ça, tout ça. Et lorsque nous nous mettons dans quelque chose de plus large, dans le corps énergétique, nous pouvons expérimenter concrètement qu'il y a aussi en nous un potentiel où nous ne sommes simplement pas touchés. La nature du corps énergétique est différente. Elle est espace et silence. Elle ne peut juste pas être touchée. Ça n'est pas sa fonction. Corps physique, l'esprit pensant, est touché sans cesse par ce qu'on peut appeler le karma, les expériences de vie et les actions qui en découlent à travers notre corps et notre esprit. Mais ce corps énergétique, on peut constater qu'il est juste, il ne peut pas être touché. Sa nature, c'est simplement d'être. C'est un grand repos. Et j'ai beaucoup de gratitude pour avoir ce chemin qui permet, que le Bouddha a proposé, où nous développons en même temps l'éthique, où nous faisons attention de ne pas créer, dans la mesure du possible, des actes, des paroles qui portent la souffrance. Nous donnons notre force à la pratique, nous donnons du temps à la méditation. Et notre regard sur le monde change, il s'apaise. Il est plein d'ouverture et de confiance. Parce qu'il peut contacter ce qui n'est pas touchable, ce qui est libre de l'impact du monde. Alors, libérons-nous ensemble. Ne reprenons pas trop vite toutes ces activités oh. je trouve pas le mot, toutes ces activités. Toutes ces activités. Toutes ces activités du monde, quoi. Le jour à vivre. On a un jour à vivre. Comment est-ce que nous allons le vivre? Le ciel est toujours immaculé. Ça va changer. Faisons notre part de sobriété dans ce monde, de pratique pour approfondir la conscience et de compassion pour exprimer notre sagesse ensemble.